France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Deux invités dans le grand entretien de la matinale aujourd'hui. La première est directrice de Sciences Po Saint-Germain, les professeurs de sciences politiques, spécialistes de l'abstention. Le second est directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et chercheur associé au CEVIPOF. Vos questions, amis auditeurs, ne vous abstenez pas de participer. 01 45 24 7000, réseaux sociaux et applications mobiles de France Inter. Céline Braconnier, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Jaffray, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter dans cet entre-deux-tours des élections régionales. On l'a dit et redit, ce qui aura d'abord et avant tout marqué le premier tour, c'est l'abstention record. Deux tiers des Français ne sont pas allés voter. Près de 9 jeunes sur 10 également. Ces taux d'abstention ont suscité la sidération. Et il est important de continuer à analyser ce qui s'est joué dimanche dernier et qui peut se reproduire dimanche prochain. On vous demandera votre analyse sur le sujet. Céline Braconnier, avec Jean-Yves Dormagin, vous avez publié en 2007 déjà un livre de référence intitulé « La démocratie de l'abstention ». Vous êtes la grande spécialiste de ce sujet. Dites-nous si vous avez été stupéfaite par le taux d'abstention dimanche soir ou si vous l'aviez vu venir monter ces dernières années. Pour le dire en d'autres termes, ce premier tour a-t-il marqué une rupture ou un palier supplémentaire ?
Très clairement un palier supplémentaire. L'ampleur évidemment est inédite, mais on s'inscrit dans le prolongement d'une démobilisation électorale qui s'amplifie d'année en année et qui affecte absolument tous les scrutins intermédiaires, qui affecte un tout petit peu la présidentielle, mais dans des proportions qui n'ont rien à voir. Hein. La présidentielle jusqu'à aujourd'hui en tout cas continue de mobiliser. Pour tous les autres scrutins, on a clairement une abstention qui finit par atteindre des taux très problématiques pour notre démocratie représentative, en effet.
Mais palier par palier, est-ce qu'on va arriver à la rupture ?
Mais écoutez, il y a un vrai risque. Hein, quand on voit que 15% des jeunes ont voté, que dans des quartiers populaires où on enregistre traditionnellement beaucoup d'abstention, quand l'abstention est élevée au niveau national, pareil, on a eu des taux de participation autour de 10-15%. Ça signifie qu'il y a plus d'électeurs, presque plus d'électeurs pour aller voter pour les scrutins intermédiaires.
Jérôme Jaffray, même question. Vous êtes un analyste avisé de la vie politique. Deux tiers des Français qui ne se rendent pas aux urnes. Est-ce que vous imaginiez ça possible ou avez-vous été surpris comme tout le monde ?
Mais comme tout le monde, bien sûr, à ce niveau-là. Alors Céline Braconnier a raison d'insister sur ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre que déjà les municipales, l'année dernière, marquées par la Covid, avaient atteint un taux d'abstention exceptionnellement élevé. Alors que d'habitude, c'est un scrutin de proximité où les électeurs vont voter, en particulier dans les petites communes, dans les communes même de taille intermédiaire. Donc on est dans la situation où il y a effectivement une cassure intervenue entre le citoyen et le vote, qui se confirme, si vous voulez, il faut comprendre que le vote ou l'abstention, c'est un effet d'enchaînement et d'entraînement, si je puis dire. Si les électeurs perdent l'habitude d'aller voter, et ils l'ont largement perdu entre les municipales et ces régionales et départementales, la question se pose pour la présidentielle, dont on vient de rappeler quel est le scrutin de participation massive, mais ce n'est plus totalement acquis, comme nous pouvions
c'est-à-dire
le voir.
C'est-à-dire la voiture ralentie avant peut-être de caler, c'est ça.
Voilà, c'est une question d'offre politique pour les électeurs, d'intérêt. La mobilisation n'est pas totalement acquise pour la présidentielle de l'année prochaine. Comment réparer la cassure ? Voilà la vraie question.
Il y a une grande bataille interprétative sur cette abstention. Céline Braconnier, vient-elle d'une fatigue démocratique, d'une paresse civique, d'un manque d'intérêt pour le débat politique, de l'épidémie de Covid, d'élections régionales et départementales dont on ne saisit pas nécessairement les enjeux ou l'importance ? Dans ce faisceau d'analyses possibles, quelle est la vôtre ?
Alors, l'abstention est multifactorielle. Personne ne s'est risqué à l'issue du scrutin de dimanche à avancer la peur du Covid comme facteur explicatif de l'abstention.
Compliquer la campagne derniers mois.
Alors voilà, de façon indirecte, ce que ça a eu pour effet la crise sanitaire, c'est que la campagne n'a pas eu lieu et notamment les campagnes de terrain n'ont pas eu lieu. Or, on sait que plus on est éloigné de la politique, plus on a besoin d'une campagne de proximité pour aller voter, ne serait-ce que pour avoir en tête le fait qu'il y a un vote qui est prévu, et puis pour obtenir une aide dans le décryptage des enjeux, dans le décryptage des programmes. Mmh. Donc cette absence de campagne a évidemment ajouté son obstacle à la participation. Mais les taux qu'on a enregistrés dimanche sont le produit d'un ensemble de facteurs cumulés, parmi lesquels les facteurs structurels sont les plus importants, puisqu'encore une fois, on est dans le prolongement de taux d'abstention qui était déjà très impressionnant au cours des scrutins précédents. Et parmi ces facteurs, il y a le facteur politique.
C'est-à-dire
le facteur politique qui est le désenchantement politique très marqué des citoyens à l'égard de notre démocratie représentative, le doute, le scepticisme qui s'exprime à l'égard des élus, la méfiance également, le sentiment qu'aller voter, ça n'a plus trop de sens. On ne croit pas que ça va produire des changements, et on a du mal à distinguer dans une offre qui a du mal à se faire, à être lisible. On a du mal à se repérer. Donc tout ça cumulé, crée de l'abstention très 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 forte.
Jérôme Jaffré.
Moi, j'insisterai, si vous voulez, sur le fait qu'il n'y avait pas de message politique pour les électeurs à délivrer dans ces élections. Or, c'est un moteur capital de la participation, surtout régionale. Que pensons au régional de 1992, un an avant les désastres socialistes de 93, ou de 2004 ou de 2010, sanctions contre Chirac, Raffarin ou contre Sarkozy. Vous avez des messages politiques, l'électeur veut se saisir de l'élection intermédiaire, l'élection régionale ne le passionne pas, mais il envoie un message au pouvoir. Là, vous êtes dans une situation où à la fois, nous sortons du Covid, le pouvoir n'est pas aussi impopulaire qu'il l'a été il y a quelques mois. Il n'y a pas de sortant de La République En Marche. Comment délivrer un message politique fort dans ces conditions? Si vous n'avez pas cet ingrédient, vous venez à ce moment-là, ce que vient de dire Céline Braconnier, à savoir que le jeu politique, il est très très loin, et de plus en plus loin des électeurs. Et je dirais que, d'une certaine façon, l'insistance mise sur le jeu politique, en particulier par les représentants de la majorité, entente, retrait, fusion, Front Républicain, avant le premier tour, et ben si la classe politique ne parle qu'à la classe politique et pas aux électeurs, pourquoi les électeurs se passionneraient-ils ?
L'abstention, Céline Braconnier, formule-t-elle un message, voire un discours politique ? Ou est-ce qu'elle marque juste un retrait, une indifférence pour la vie démocratique ?
Non, elle marque avant tout une distance qui est indéniable, qui est le fait objectif, donc un éloignement des institutions de la démocratie représentative. Maintenant, il y a des électeurs de différentes catégories, les jeunes par exemple, qui s'abstiennent de façon très importante. L'âge est le critère et le déterminant principal de la participation électorale, et l'est de plus en plus. Le décalage de participation n'a pas été réduit par cette abstention faramineuse, et ça renvoie à des facteurs qui sont liés au fait que participer à la vie démocratique, ça vient prolonger d'autres formes d'intégration sociale, donc on vote davantage quand on a un travail stable, quand on a fondé une famille, et ça a toujours été, ça s'est amplifié avec le temps parce que on travaille plus tardivement qu'il y a 30 ans, mais c'est un facteur qui est traditionnel, de moindre participation électorale. En revanche, il y a un facteur générationnel qui s'est ajouté et qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes de 20 ans ne s'abstiennent plus de ne pas se rendre aux urnes, alors que les personnes plus âgées continuent d'y aller, y compris quand ils sont porteurs d'un certain scepticisme et d'un certain désenchantement. Ce qui était frappant dimanche dernier, c'est que du côté des votants, on n'avait pas plus d'enthousiasme et de compréhension pour les enjeux du scrutin que du côté des abstentionnistes. Et ça doit interroger l'ensemble des acteurs du champ politique, parce que il y a non seulement ces taux faramineux d'abstention, mais il y a le fait que les votants à la sortie des urnes paraissent eux-mêmes sceptiques sur l'intérêt d'aller voter.
Une démocratie, Jérôme Jaffré, qui fonctionne grâce à la mobilisation des plus anciens, même s'ils ne comprennent pas nécessairement l'enjeu de l'élection, mais en tout cas ils y vont, peut-être par mauvaise conscience ou habitude civique. Une démocratie de cette nature, ça donne quoi en termes politiques ? Quelles conséquences ça a ?
Ça donne déjà un corps électoral déformé, profondément déformé par rapport à ce qu'est la société tout entière. Et ça, cette distance, elle est inquiétante pour le bon fonctionnement des institutions et de ce que le système peut apporter aux citoyens en réponse à leurs demandes et à leurs besoins. Je me suis amusé à regarder une chose, compte tenu des taux de participation différentiels par électorat présidentiel de 2017, Vous avez par exemple, Marine Le Pen avait 21% des suffrages exprimés le premier tour de la présidentielle de 2017. Parmi les votants effectifs de ce premier tour des régionales, ça représente à peu près 15% l'électorat Le Pen présidentiel. C'est ramené. Et l'électorat Fillon, qui lui s'est mobilisé beaucoup plus, un électorat âgé, aisé, donc on voit bien le profil sociologique que ça représente. Fillon, il a fait 20% des voix à la présidentielle. L'électorat Fillon, ce qu'il en reste à ses régionales, c'est plus de 25% dans les urnes. Donc vous avez un effet de déformation sociologique qui vient d'être rappelé, mais aussi politique, qui aboutit à des résultats. Par exemple, effectivement, le vote de droite est surreprésenté. Les présidents de région bénéficient parce que ce scrutin qui est marqué par un dégagisme vis-à-vis des urnes, il pourrait aboutir à ce résultat extraordinaire que tous les présidents de région sont réélus dimanche, c'est une hypothèse possible. C'est-à-dire que c'est l'inverse de 2017. Le dégagisme de 2017 avait éliminé une classe politique, et ce dégagisme vis-à-vis des urnes de 2021 pourrait prolonger les barons locaux dans leur toute puissance pour 6 ans de plus.
Donc c'est pas le retour du clivage gauche-droite à l'ancienne, c'est une super prime au sortant.
C'est un système dans lequel alors le clivage gauche-droite peut revenir en partie parce que le centre, ce que représente la majorité présidentielle, est un peu broyé dans ce système et le Rassemblement national n'a pas réussi à faire basculer le système au moins au premier tour de scrutin. On peut donc effectivement avoir une situation où baron de gauche et baron de droite, si je puis dire, sans évoquer le baron noir pour autant, baron de gauche et baron de droite triompheraient, c'est possible.
Céline Braconnier, on a pu lire, il y a eu évidemment la bataille des commentaires au lendemain du premier tour, que la droite relever la tête, ça c'était le titre du Figaro. Le Parti Socialiste à l'échelle nationale arrive en troisième position. On s'est donc demandé si le clivage gauche-droite dont on imaginait ou dont on pensait qu'il avait été qu'il était mort et enterré était en train de revenir. La structuration classique, historique du débat politique, est-ce que ça permet de sortir du marasme ou c'est une question de vieillard que je vous pose?
Non, en tout cas c'est son absence sans doute, c'est le fait qu'il y ait...
C'était le bon temps.
Non, c'est le fait qu'il y ait une déstructuration, une décomposition du paysage politique qui rend les citoyens, qui met les citoyens dans une situation extrêmement difficile pour aller voter. Parce que quand on n'est pas très politisé, on a du mal à décrypter. Quand ces repères gauche-droite ne sont plus lisibles, quand on voit des candidats qui circulent entre des partis politiques, quand on voit des formations qui s'allient pour les départementales et qui sont concurrentes pour les régionales, donc on demande des choix à un même électeur qui sont incompréhensibles quand on n'est pas un spécialiste de la politique. Donc, on est face à un paysage politique complètement décomposé, dont les repères ont été brouillés, qui n'a pas encore construit d'autres repères. Donc, du point de vue des citoyens et des électeurs, c'est très problématique, cette déstructuration.
Jérôme Jaffré.
Oui, et ce second tour ne va pas dans le sens d'une très grande clarification. Il y a deux régions, par exemple, où il y a 5 listes toujours en présence au second tour. Or, les électeurs, ils ont l'habitude, effectivement, d'un choix binaire au second tour de scrutin. Il n'y a plus que 2 listes ou 2 candidats qui restent en présence, et les clivages apparaissent plus clairement. Mmh. Là, c'est beaucoup plus difficile à saisir. Mais on voit bien que la question va se poser aussi pour la présidentielle de l'année prochaine. Le brouillage des repères politiques et de la lisibilité politique pour les électeurs peut exister dans le scrutin de l'année prochaine, où vous aurez un choix multiple d'une complexité extrême avec plusieurs clivages coexistants dans le système politique. Ça demande une attention au débat politique plus grande à un moment où précisément les électeurs ont une distance de plus en plus grande à l'égard du débat politique. C'est ce hiatus qui existe et qui rend les choses beaucoup plus difficiles. En d'autres termes, le vieux monde continue un peu de battre et le nouveau monde n'a pas construit un nouveau paysage politique.
Voilà, on a la décomposition du paysage politique classique entamé en 2017, mais pas encore sa recomposition, on peut dire les choses comme ça.
C'est exactement ça.
On va passer au standard maintenant. Très nombreux auditeurs ce matin. Aurélien nous appelle de Lyon. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Un facteur qu'on n'entend jamais, et je n'ai pas encore entendu ni non plus ce matin, c'est le facteur des programmes et des thématiques de campagne. On entend tout le temps que c'est l'électeur qui se mobilise pas, etc. Mais jamais aucune remise en cause du programme politique. Est-ce qu'on n'en a pas marre de tous entendre parler uniquement de la sécurité? Moi, ça fait depuis 2007 que je vote et j'ai l'impression de voter toujours pour celui ou celle qui va apporter le plus de sécurité à ce pays et aux collectivités locales et nationales.
Merci Aurélien, merci à vous pour cette question. Céline Braconnier.
Oui, il est évident que le cadrage par les partis politiques de cette élection à partir d'enjeux nationaux et notamment d'enjeux de la sécurité qui ne relèvent des compétences ni des régions ni des départements a brouillé les cartes et privé les électeurs d'une vraie élection locale. Hein, cette élection a été nationalisée par les formations politiques elles-mêmes alors que les citoyens auraient pu être davantage mobilisés par un cadrage local qui les renvoie à des questions qui ont un impact direct sur leur quotidien, qui ne se résume pas à la question de la sécurité, bien évidemment.
Jérôme Jaffray, pour la question de notre auditeur, les programmes.
Ce qui est tout de même intéressant, c'est que ce thème de la sécurité, on avait pu penser, à travers les sondages préélectoraux, que le Rassemblement national en tirerait le plus grand profit. Ça veut dire que les électeurs n'ont pas accepté en partie le fait que le RN fasse un score moins élevé qu'ils ne l'espéraient. Ça veut dire quand même que les électeurs n'ont pas accroché par rapport à ce détournement de thématique complètement. C'est intéressant. En même temps, si je puis dire, il n'est pas du tout évident que les pures thématiques locales suffisent dans ces élections à mobiliser. On voit bien à la fois les régions ont une excellente image, le bilan des régions, des présidents de régions est bon, mais ce sont des machines, je dirais, à distribuer des subventions très largement et à entretenir certains égards des formes de clientélisme. On n'est donc pas, on n'a pas des thématiques structurantes du niveau local qui pourraient générer un débat régional pur. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que toutes les élections régionales, comme je l'ai dit, ont jusque-là été largement détournées par des thématiques nationales ou politiques, de messages politiques.
Plusieurs questions très précises sur la manière d'organiser le vote. Nathalie, sur l'appli Inter, dit la chose suivante. Comment voulez-vous demander à un jeune à l'ère numérique de donner une procuration qu'il doit aller déposer au commissariat de police? Et la police n'a-t-elle pas autre chose à faire? Nous sommes dans une situation où les conditions de vote sont préhistoriques. Autre auditeur, j'ai fait une procuration hier. J'ai passé 25 minutes à attendre dans un commissariat après avoir fait les démarches en ligne. Il faut vraiment être motivé pour aller voter.
Non, il est évident que nos procédures électorales demandent à être réformées. Elles sont héritées d'un temps très ancien et ne sont plus du tout adaptées à nos modes de vie, notamment les jeunes qui bougent beaucoup et qui sont très mobiles sont empêchés de voter par la difficulté à faire une procuration, par la question de la malinscription. Tout ça, ce sont des outils techniques. Alors évidemment, c'est pas avec des mesures techniques qu'on ramènera les gens vers les urnes de façon enchantée, hein, qu'on réenchantera la politique. Mais enfin, si on pouvait supprimer les obstacles à la participation et faciliter le vote, notamment des catégories qui bougent, qui sont mobiles géographiquement, ça serait un bienfait pour notre démocratie représentative.
Aller vers le vote par Internet, revenir
bien
au
entendu.
Vote par correspondance, le
bien
rendre
entendu.
Obligatoire, éventuellement, point d'interrogation.
Alors ça, c'est dans un deuxième temps, éventuellement, si toutes les autres mesures ne fonctionnent pas. Mais on a plein de grandes démocraties qui ont les mêmes difficultés que nous avec une abstention qui augmente et qui ont expérimenté un certain nombre de mesures facilitant la participation. La procuration doit pouvoir être beaucoup plus faite beaucoup plus facilement. L'étalement du vote, le vote par Internet, bien entendu, doivent être mis en place. Il n'y a pas vraiment de raison qu'en France, on se prive de ces éléments de facilitation, même s'il ne s'agit pas de remettre en cause le vote à l'urne, qui doit pouvoir subsister, bien évidemment, qui est important, qui ritualise l'élection. Mais pour autant, on a des citoyens qui sont dans des situations très diverses. Il faut s'adapter et inclure le plus possible de catégories de citoyens.
Jérôme Jaffray.
Oui, la question de la participation, c'est d'abord la question de l'offre politique et de la capacité de relation entre le système politique et les citoyens. Donc, c'est pas uniquement les méthodes, sinon ce serait trop facile. Donc, qu'est-ce que le vote apporte aux citoyens et à la démocratie? C'est ça la première question. Les méthodes peuvent être posées, mais avant de basculer vers des réformes aussi fondamentales, le mot qui a été employé est juste, c'est le mot d'expérimentation. Il serait éminemment souhaitable de pouvoir construire des expérimentations. Par exemple, certains envisagent le vote à 16 ans. Mais s'il s'agit de faire massivement s'abstenir les jeunes de 16 à 18 ans, l'effet d'entraînement qu'il y aura, c'est de les former des futurs citoyens abstentionnistes. Il faut donc faire des expérimentations. Internet, on voit d'abord l'échec de la campagne numérique dans ces élections régionales. On a cru que la campagne serait numérique et mobiliserait les électeurs. Mais la campagne numérique qui a eu lieu, elle ne mobilise qu'une toute petite fraction des électeurs déjà fortement politisés. Et effectivement, c'est les meetings, les réunions publiques, le porte-à-porte qui changent le rapport et qui mobilisent mobilise vraiment les citoyens. Donc, la réponse numérique n'est pas une réponse suffisante, mais il faut la tester. Expérimentons dans certains endroits, il faudrait pouvoir avoir ce programme.
Le droit de vote à 16 ans, c'est juste abaisser l'âge des abstentionnistes. Céline Bragonnier, qu'en pensez-vous ?
Alors, en effet, si on ne fait qu'abaisser l'âge de électoral à 16 ans sans accompagner les premières expériences électorales, on aura une difficulté supplémentaire. Si on peut proposer d'abaisser l'âge du vote à 16 ans, c'est qu'à 16 ans, on habite encore chez ses parents d'une part et qu'on est encore à l'école d'autre part. Et qu'il peut y avoir un investissement de l'institution scolaire notamment dans l'accompagnement des premières expériences électorales. On sait très bien qu'on crée l'habitude de vote et qu'en votant plusieurs fois d'affilée, on a plus de chances de continuer de voter plus tard. Donc, questionner de nouveau le rôle de l'école dans la construction de cette citoyenneté électorale. Et pour ça, abaisser l'âge du vote pour qu'il soit davantage accompagné, ça peut être une bonne idée qui est proposée par de nombreux électoralistes dans le monde.
Encore une question de Romain, très fine. L'abstention, dit-il, ne serait-elle pas due à une perte de souveraineté ? Nous observons un recul de nos marges de manœuvre pour laisser la place à des politiques européennes. J'ai l'impression que nos hommes politiques ne pourront rien, quoi qu'il arrive, face aux politiques européennes. Et donc, ne peuvent rien changer, et donc, mon vote non plus.
C'est une question majeure qui est posée là et qui renvoie à la présidentielle de l'année prochaine. La présidentielle, jusqu'à présent, en France, effectivement, elle mobilisait environ 8 électeurs sur 10, au moins au premier tour des présidentielles. Et c'était, je dirais, le moment à la fois de mobilisation et d'élan du pays. C'est-à-dire le sentiment qu'on pouvait construire quelque chose avec le président qui serait élu. La question, c'est est-ce que ça va rester ? C'est-à-dire, effectivement, est-ce que le sentiment que ce président élu dans ce système, de plus en plus critiqué par le fait que c'est un homme, d'ailleurs, jamais une femme jusqu'à présent, un homme seul, qui ensuite va régler les problèmes du pays, est éminemment contestable. Et ensuite, effectivement, la marge de manœuvre des politiques s'est reculée. À partir de ce moment-là, est-ce que la présidentielle va rester ce rendez-vous central ? Là, pour moi, c'est un point d'interrogation. On peut avoir un recul de participation de 10 à 15 points par rapport au présidentiel habituel l'année prochaine, si l'offre politique reste trop identique à celle de 2017, et si ce sentiment d'inutilité en partie du vote continue de se répandre. C'est en tout cas une des grandes questions qui va nous tenir dans l'année qui vient.
Vous le disiez, Jérôme Jaffray, l'abstention a été particulièrement forte dans l'électorat du Rassemblement National. Brice Teinturier, d'Ipsos, à ce micro lundi dernier, disait la chose suivante, c'est une élection sans enjeu majeur dans un pays qui n'est pas en colère. S'il avait été en colère, il se serait mobilisé pour manifester cette colère à travers un vote en faveur du RN. Nous avons beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le moment n'est pas un moment de colère en France. Qu'en pensez-vous, Céline Bragonnier ?
Oui, alors, en effet, les électeurs du Front National ne se sont pas mobilisés massivement, mais c'est en partie lié à leurs caractéristiques sociodémographiques. On a des électeurs qui sont jeunes, qui sont fragiles, pour partie composant les électeurs du Front National, et qui sont très difficiles à mobiliser. Donc, ils ne se mobilisent que si la campagne est de forte intensité et que s'ils comprennent les enjeux.
Et là, il n'y avait pas de combustible, si j'ose
l'image. Mais ils sont passés à côté, les électeurs... RN, les jeunes électeurs RN sont restés à côté de l'élection. Ils n'ont pas été mobilisés. Et c'est voilà, en traduire qu'ils ne sont pas en colère, c'est pas vraiment. Et juste, ils n'ont pas saisi cette opportunité d'exprimer leur colère parce qu'ils sont passés à côté de l'élection.
Jérôme Jaffray sur la colère.
D'abord, Brice Teinturier a raison de souligner que ça n'est pas la forme de colère qu'il peut y avoir du temps des Gilets jaunes. C'est évidemment autre chose. Mais il y a une formidable défiance à l'égard de la politique. J'aurais tendance à dire d'un mot, il y a une colère rentrée. La preuve que c'est une colère rentrée, c'est que les électeurs ne sont pas sortis.
Mais c'est plutôt de la résignation, j'ai envie de dire qu'on enregistre, c'est plutôt de la résignation. Et c'est encore plus inquiétant au regard des enjeux de démocratie représentative. Il faut réenchanter la politique, ça doit faire rêver. On n'arrivera pas à faire revenir aux urnes des électeurs qui n'y croient plus ou que la politique ne fait plus rêver.
Le second tour, sans doute autant d'abstention, selon vous ?
Vraisemblablement, oui, si vous voulez. Il est très rare qu'il y ait des grands sursauts entre les deux tours de scrutin. et il faut qu'il y ait une raison politique très forte à ce sursaut. Exemple, 2002, après la qualification de Le Pen, vous avez une hausse de participation énorme, ou 2015, régional, le Rassemblement National peut emporter plusieurs régions, les électeurs se remobilisent. Là, oui. Le premier tour n'est pas un premier tour qui envoie un message politique qui pousse les électeurs au sursaut.
D'un mot, Céline Braconnier.
Oui, on voit que certains candidats ont essayé de dramatiser un peu l'enjeu du deuxième tour pour essayer de mobiliser, parce qu'en effet, un clivage, la perception d'une offre clivée ou la perception d'un danger, d'un basculement, ça peut faire revenir aux urnes un tout petit peu d'électeurs. Et on perçoit des distributions de tracts un peu plus importantes que la semaine dernière, mais ça ne produira pas une remobilisation notable.
Merci à tous les deux, Céline Braconnier, Jérôme Jaffray. Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, la démocratie de l'abstention avec Jean-Yves Dormagin. Il va sans doute falloir une nouvelle édition revue et augmentée. Jérôme Jaffray, directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Merci encore. 8h46. France Inter.